Et une énième défaite des Girondins de Bordeaux ce week-end à Laval, ça ne s'est pas bien passé malgré une superbe possession de balles, 80%, mais c'est pas suffisant a priori pour gagner un match pour les Girondins de Bordeaux. On en parle dans le podcast de Bordeaux Le Mag. Les Girondins de Bordeaux étaient en déplacement à Laval ce week-end. Vous les avez peut-être suivis. C'est Bordelais, défaite 1-0. On va décrypter cette rencontre, le contenu et cette défaite avec Laurent Brun, journaliste indépendant. Bonjour Laurent.
Bonjour Alain, bonjour à toutes et à tous.
Défaite 1-0 et vous savez bien que j'aime regarder les statistiques avant de préparer cette rencontre, au-delà du visuel qu'on a pendant les 92, 93 ou 96 minutes que dure un match. 80% de possession de balles, 10 tirs Lavallois, 6 tirs Bordelais. Ça résume le match ?
Ouais, ben le match est facile à résumer. Hein. Et deux équipes moyennes, très très moyennes, et puis il y en a une qui a gagné, voilà, parce qu'elle a peut-être mérité en n'étant pas forcément très très bonne, et l'autre qui a été d'une nullité affligeante, et j'entends parler les Girondins. Voilà, alors les stats, je les ai vus aussi, et je me suis dit, les stats, voilà, la stat, c'est que c'est encore une défaite pour Bordeaux, qui est toujours pas sauvée, mathématiquement, même si, bon, je pense que ça devrait le faire. Mais voilà, j'ai vu aussi des comportements, des cartons rouges, enfin, c'est... On touche le fond, quoi, hein. Bordeaux touche le fond, hein. Ça fait un petit moment, mais là, on y est vraiment. Hein. On est ventousé au fond. Là, hein.
On a l'impression que c'est très répétitif, bien sûr, ce que l'on dit. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Cette irrégularité nous coûte très cher.
Ah ouais, je pense même que c'est un coup, ça va, trois coups, ça va pas, en fait. Parce que je vois pas. Il y avait un peu de mieux, c'est vrai, dans le contenu des matchs. Depuis quelques semaines, entre le match à Caen, même le match à Saint-Etienne qui est perdu sur la fin, mais le contenu du jeu n'était pas trop trop mal. Face à Dunkerque, les Girondins ont fait une grande prestation, mais ils ont fait le job face à une équipe pas transcendante, mais Bordeaux a déjà perdu contre ce genre d'équipe aussi, ce genre de profil-là, donc c'était, ils ont fait le job, c'était sérieux. Et là on a, c'est le néant, quoi. C'est le néant. En plus, ce match que j'ai vu à la télé, il n'y avait pas un bruit dans le stade. J'avais l'impression que c'était un huis clos avec des mannequins... des gens factices dans la tribune. Alors quand Laval a marqué, c'est sûr, ça s'est un peu emballé, mais je trouve qu'il y avait une atmosphère pas pesante, mais une atmosphère vraiment flippante, quoi, flippante, et ça a pas aidé non plus. Après voilà, on a vu une équipe de Laval qui est partie, qui a un profondeur Pagis lancé en profondeur plein axe, il s'échappe tranquille, il va marquer un joli but bien amené, bien conclu, voilà, mais encore une facilité totale dans le bloc bordelais, hein. J'englobe même pas que la défense, hein, j'englobe tout le monde. Voilà, ben on a vu un match qui était vraiment nullissime, mais une équipe bordelaise qui fait peur, qui fait pitié, quoi, qui donne envie de pleurer.
Alors d'un côté, il y a des Lavallois qui disent on avait un plan, c'est bien sûr laisser le ballon aux Girondins et arriver à les contrer, c'est ce qui s'est passé. De l'autre côté, on dit du côté des joueurs, mais surtout aujourd'hui du côté de Riera, on n'a pas appliqué le plan de jeu.
Ah ben alors ça, je veux bien le croire. Hein. Je ne sais pas quel était le plan de jeu, mais vu ce que les Bordelais ont montré, d'abord c'est effectivement difficile de deviner ce qu'était le plan de jeu, mais je pense qu'on n'a rien appliqué du tout, quoi. Aucune application technique, aucune application tactique, rien du tout. C'était catastrophique, en fait, quoi. Il y a très peu d'occasions de but. On s'est ennuyé à mourir, quoi. C'était ouais, Laval, j'ai lu des déclarations, bah oui, ils ont fait des choses qu'ils avaient ciblées, ils ont réussi. Bah, Laval n'est pas sur la même dynamique qu'en début de saison, hein. On sait que cette équipe a été en tête du championnat de Ligue 2 pendant une dizaine de journées, je crois. Bon, il y a eu, c'est pas facile, hein, de gérer non plus la première place et d'être chassé. Il y a eu un creux, mais Laval qui n'avait plus gagné, je crois, à domicile depuis le mois fin septembre dernier. Eh ben, à lui, je pense, appliquer son plan de jeu qui était peut-être d'attendre. Il savait que Bordeaux allait avoir la possession de balles. Ils ont attendu une opportunité et puis ils en ont saisi une. Et encore une fois, l'histoire se répète. Et on voit que Bordeaux est incapable de gérer ce genre de situation. Parce que, enfin, je sais pas si c'est votre avis, mais je pense que le meilleur Bordelais, c'est encore été le gardien de but, hein. Johnson. Hein.
Comme à chaque fois.
Comme à chaque fois. Donc c'est pas un bon signe. Merci à lui parce que c'est très bien. Mais encore une fois, je le dis souvent, mais quand votre meilleur joueur c'est votre gardien de but, c'est qu'il y a un problème. Hein. c'est qu'il y a un problème sur les 10 joueurs qui sont censés constituer les lignes défensives successives avant d'arriver jusqu'au goal. Donc voilà, encore une copie pourrie, encore un match dégueulasse, excusez-moi, et puis encore une désillusion, quoi, parce que ça fait mal. Ouais, Laval tranquille, c'est ça, jouer avec ses moyens, a attendu l'erreur de l'adversaire et puis a su planter la banderie qu'il fallait au moment où il fallait, et puis conserver son avantage.
Laurent, vous dites Laval savait que Bordeaux aurait le ballon. Alors moi, je voudrais bien qu'on revienne sur cette expression, savait que Bordeaux aurait le ballon. Est-ce que c'est pas plutôt les adversaires qui jouent avec leur bloc bas, avec leur système, qui laissent volontairement le ballon à Bordeaux et que finalement, c'est une fausse possession?
C'est possible. Cette réflexion est intéressante. Alors, début de saison, c'était plus, on a ciblé les faiblesses des couloirs bordelais. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, on joue sur les ailes, on essaie d'étirer le bloc bordelais, voilà, et de jouer dans le dos ou par-dessus sur les ailes. On centre en retrait, on marque. Ça, c'était un peu le leitmotiv des équipes adverses en début de saison. Et depuis de nombreux mois, effectivement, Bordeaux a la possession. Et on le dit à chaque fois, c'est une possession stérile. C'est que ça ne déclenche pas, ça ne percute pas, il n'y a pas de verticalité ou très peu, ou une fois tous les 5 matchs. Bon, voilà. Et oui, peut-être que l'adversaire, il se dit, bah, de toute façon, a priori, on a une qualité technique intrinsèque moins bonne que les Girondins, qui vient a priori, et possiblement, ce qui ne veut pas dire assurément, eh ben, on va peut-être laisser Bordeaux avoir le ballon, le laisser jouer de façon latérale et le contrer sur un mouvement de passe ou amorcer une contre-attaque très rapide. Voilà, aller au pressing un peu plus haut, et on sait que Bordeaux aime jouer haut et aime presser l'adversaire d'entrée de match très haut, l'obligeant ce dernier à évoluer dans ses 30 derniers mètres. Sauf que ça marche pas, quoi. ça va marcher une fois sur 4 ou 5, et ça marche pas, et il faut pas prendre les gens en face pour des ignorants, quoi. Parce que tout est disséqué, tout est regardé, et je pense que c'est facile de cibler les points faibles bordelais, et que c'est pas si difficile que ça. De contrecarrer les dessins bordelais et de planter des banderies, comme je disais, quand il faut. Je pense que les adversaires sont suffisamment compétents pour savoir ce qu'il faut faire, et que la lecture du jeu bordelaise est très facile et que tout le monde s'en sert, et que Bordeaux finit par être un paillasson que tout le monde piétine.
Quand Riera est arrivé à Bordeaux, il est arrivé avec ses convictions, ses systèmes de jeu. Au bout de 2 mois, il s'est avéré que ça ne fonctionnait pas. Il est plutôt revenu à quelque chose d'un peu plus classique, 4-3-3. Mais lorsqu'on regarde les matchs aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire clairement que Bordeaux a un plan A pour jouer au football, mais n'a pas de plan B pour réagir aux difficultés rencontrées par les adversaires?
Ouais, je suis assez d'accord. Je pense même pas qu'il y a un plan A. Je pense qu'il y a un pseudo plan A. En fait, je pense qu'on se leurre. Je pense qu'on est absolument pas compétent au niveau bordelais pour agir, et même aujourd'hui pour réagir. C'est catastrophique. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre la tactique bordelaise. Je vois bien le système de jeu, mais c'est pas clair, quoi. C'est opaque, puis ça fonctionne pas. Donc si ça fonctionne pas, oui, bon, on a dit les joueurs ils sont pas doués, c'est sûr, malgré certaines qualités, voilà, mais je pense que le message non plus. Je pense qu'on s'entête à vouloir jouer d'une certaine façon, par conviction profonde côté du staff technique, et que c'est pas applicable à Bordeaux. J'avais le même discours en Ligue 1, les dernières saisons de Ligue 1, où même Paulo Sousa parlait de foot, hein. C'était intéressant ce qu'il disait. Mais il n'avait pas compris que c'est le système qu'il voulait mettre en place à Bordeaux, ben, il n'avait pas les joueurs pour le faire, et que ça a peut-être marché à la Fiorentina, mais ça n'a pas marché au Girondins. Voilà, donc je fais cette petite digression, parce que je trouve des similitudes aujourd'hui, avec je trouvais quand même un discours de Paulo Sousa bien plus technique et plus intéressant que celui d'Albert Riera. Et voilà, ben, je pense qu'on travaille pas très bien tactiquement, et qu'en tout cas, si on travaille bien, les consignes, elles passent pas. Ou elles sont pas comprises.
Justement, Riera dit qu'en deuxième mi-temps, il avait demandé, c'est surtout la deuxième mi-temps qui ne satisfait pas l'entraîneur espagnol. Il dit dans sa réaction d'après-match, j'avais demandé à ce qu'on fixe avant de pouvoir trouver des joueurs en décalage. Et on l'a pas fait.
Alors, c'est sûr que s'il demande des choses et qu'on les applique pas, c'est pas que de sa faute, hein. On est bien d'accord. Maintenant, est-ce que les choses qu'il demande sont compréhensibles pour les joueurs? Est-ce qu'elles sont faciles à appliquer? Est-ce que le groupe ne comprend rien? Est-ce que le groupe s'en moque? Est-ce que le groupe lâche? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fonctionne pas. Quoi qu'il en soit, ça ne fonctionne pas. Effectivement, s'il a demandé de jouer comme ça, il fallait le faire. Puis c'est quand même le coach, c'est quand même le chef d'orchestre, donc il faut quand même écouter ce qu'il dit. ou alors c'est une sédition sportive et on ne veut plus appliquer ça, mais bon, il y a quand même un technicien en poste, il faut écouter. Et si vous pouvez faire ce que vous voulez, vous le savez aussi bien que moi, hein, quand on est entraîneur, éducateur, vous mettez en place des choses qui vous paraissent être les bonnes, d'abord dans le meilleur système de jeu possible, avec les meilleurs joueurs possibles que vous avez sélectionnés sur le contenu de travail de la semaine ou des semaines précédentes. Si vous préparez tout et qu'en face ça répond pas dans votre vestiaire, vous pouvez faire ce que vous voulez, dire ce que vous voulez, ça marchera pas, c'est pas vous qui avez marqué des buts. Voilà. Après, le bémol, c'est est-ce que c'est bien compris, est-ce que c'est validé par le groupe, ce qui est demandé, je sais pas. Mais en tout cas, autant pour l'adversaire, je disais que la lecture est peut-être du jeu bordelais facile, autant pour moi, parfois elle est difficile et j'ai du mal à analyser ce qui est demandé et la production que les joueurs donnent.
Deux exclusions sur ce match, Gaëtan Wisbeck, c'est déjà la deuxième cette saison, plus celle du coach. Est-ce que ça veut dire quelque chose sur l'état d'esprit, la nervosité en cette fin de championnat?
Pour moi, oui. Pour moi, c'est très révélateur de ce qui se passe au club. Ça peut arriver. Wisbeck était déjà averti. Donc, c'est pas un rouge direct, c'est un second carton jaune. C'est pas un joueur méchant, c'est pas un joueur coutumier du fait non plus. Mais je pense que oui, ça traduit certaines choses. Et le coach, encore une fois, alors il a beau dire, il a peut-être raison, hein, qu'il a pas insulté autre. Mais encore une fois, il envoie une image catastrophique du club. Quand on est coach, on doit se maîtriser. Et c'est pas la première fois. Et ça ajoute encore de la difficulté. Ça plombe la fin de match. Le coach, c'est lui qui est au sommet de la pyramide des éducateurs d'un club. Faut jamais oublier ça. Même si on est dans le niveau professionnel, dans le monde professionnel, le coach, c'est le premier éducateur du club, le coach de l'équipe première. Et jamais, alors ça peut arriver, on reste des hommes, mais jamais on doit bafouer la notion d'exemplarité. En tout cas, se dire qu'il faut jamais le faire. On reste des hommes, ça peut arriver. Je sais pas ce qu'il y a eu, mais ça va finir comment, cette histoire? C'est à Saint-Etienne dans le couloir. Peut-être qu'à chaque fois, il est victime. J'en sais rien. On sait rien, en fait. Puisqu'on voit pas. Moi, j'ai vu à la télé. J'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai vu que l'arbitre lui signifiait de regagner la tribune ou le vestiaire. Voilà. Et encore une fois, mais quel message on envoie, là aussi? Mais gardons nos nerfs, quoi. Gardons nos nerfs. Ça rime à quoi? On se fait insulter, peut-être. Bon, on répond pas. Je sais pas. Il y a des délégués qui sont là. Il y a des gens qui sont là pour co-signer des rapports, pour prendre des témoignages, pour après aller en commission. Je veux dire, c'est fait pour. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Ça prouve effectivement qu'on n'est pas du tout serein, et ça prouve qu'on maîtrise rien, selon moi, mon humble avis. Ça prouve qu'il y a quand même un gros, gros malaise, et que, voilà, encore une fois, l'équipe finit à 10, le coach se fait expulser, c'est n'importe quoi. C'est une mascarade. Vous avez vu les réseaux sociaux depuis samedi? Non, mais le club, il est tourné en ridicule. Le coach, ça y est, là, le coach, il fait l'unanimité quasi contre lui, quoi. Il est tourné en ridicule. Des montages, mais c'est ridicule, ridicule. Alors ça peut paraître drôle comme ça, il y en a même qui m'ont un peu fait sourire. Quand on prend un peu de hauteur, un peu de recul, et qu'on reprend son sérieux et son calme, on se dit, mais tout le monde se fout de la gueule des Girondins, quoi. Tout le monde se moque, et là, c'est la communauté bordelaise qui se moque de son propre entraîneur, de ses propres joueurs, de son club. Plus personne ne reconnaît le club, mais là, ça y va. C'est pas un règlement de compte à Hockey Corral, c'est que les supporters bordelais, et il faut quand même savoir que la communauté bordelaise, elle est très étendue, on va dire, même la communauté bordelaise en Aquitaine, et qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui aiment ce club, et même les plus mesurés n'en peuvent plus, quoi. Que ce soit à l'écrit ou que ce soit quand vous discutez verbalement, mais moi, j'ose même plus. Je vous réponds, Alain, parce que j'adore ça. Mais j'en peux plus de discuter des Girondins, je sais plus quoi dire, plus personne ne nous chambre. Chambrer, c'est encore un peu de respect, chambrer amicalement, plus personne n'ose faire moi me dire, alors les Girondins, c'est dur, quoi. C'est dur, et ça en fait, ça fait pas, c'est pas que cette année, hein. Il y a eu l'éclaircie la saison dernière, même si l'équipe n'est pas montée, ça fait 4 ans, 5 ans que ça dure, plus personne ne chambre. Moi je me fais même plus chambrer par les copains qui supportent d'autres clubs, quoi. C'est fini, et je trouve ça vraiment pathétique, ce qui se passe, et très triste, profondément triste, quoi.
Invité de Bordeaux le Mag, Laurent Brun, journaliste indépendant, on revient sur la défaite bordelaise, et c'est déjà la 14e défaite depuis le début de la saison en 35 journées, on a 12 victoires et 9 nuls. Alors il y a une certitude, malgré tout, à l'issue de cette 35e journée, Laurent, on regarde plus la 5e place, ça y est, on en est débarrassé.
Ben oui. Je pense que là, ça y est, alors ce poids est sûrement évacué. Je suis un peu ironique, hein. Mais bon, non, là, il faut vraiment faire le job. Faut faire le job, là, des week-ends, c'est vendredi. Voilà, allez, il faut assurer. Et puis, j'ai vu passer, je ne l'ai pas vérifié, cette information, que Ajaccio aussi n'avait plus gagné à l'extérieur depuis des mois. J'ai vu passer ça et je me suis dit, tiens, eh ben, Laval, ouais, n'avait plus gagné à domicile depuis des mois. Il faudrait juste pas, encore une fois, servir de sparring partner, quoi. Donc, non, ouais, le contexte n'est pas bon. Je pense que c'est quand même réalisable de prendre quelques points pour se sauver sur les 3-4, combien reste de journée 3.
Ah ben voilà. Laurent, il suffit de gagner Ajaccio parce qu'on a 7 points d'avance sur 3. Donc, on gagne et c'est fini. Hein.
C'est ça. Après, le contexte ambiant, le marasme, voilà, il y a des affaires. On a parlé d'Ira il y a quelques minutes, mais on ne sait pas ce qui va devenir concernant Ignatenko non plus, puisqu'il y a suspicion d'insultes racistes. Ça rajoute encore la difficulté du moment. Bon, il faut essayer de faire abstraction de ça, de se dire, allez, il reste 3 matchs. Alors bon, l'expression, il reste 3 matchs, c'est 3 finales. Non, parce qu'une finale, c'est une finale, c'est pas un match de championnat, ça se prépare pas pareil. Mais voilà, 3 matchs, il faut mettre un coup de collier. Et le premier, c'est celui de vendredi. Comme vous dites, si Bordeaux fait le job et gagne, voilà, c'est bon. C'est acquis, donc, parce que ça sera pas une bonne saison de toute façon, mais c'est acquis sportivement. Après, on est loin du compte, peut-être administrativement et juridiquement. Et financièrement, ça on verra dans quelques semaines. Mais oui, c'est jouable. Je veux dire, c'est une équipe Ajaccio qui est pas non plus un super championnat. Ben il faut être là. Je ne sais pas ce que ça donnera au niveau des supporters, que ce soit les supporters encartés ou les supporters lambda dans le stade au Matmut. Je pense qu'il faut du soutien et je pense que ça peut qu'apporter un petit supplément d'âme. Maintenant, il faut aussi les supporters font encore la grève, il faut aussi le respecter. Même si je pense que c'est un peu tard pour faire grève, mais je pense qu'il fallait peut-être tirer la sonnette d'alarme un peu avant. Mais voilà, il faut respecter aussi hein, les supporters. Ils viennent, ils posent des heures et des jours de congé. Ils sont là, ça fait partie du jeu de perdre aussi, ça c'est vrai. Mais quand c'est récurrent comme ça, c'est inquiétant et ça, la grogne aussi populaire se comprend tout à fait et elle est motivée par une grosse inquiétude et pour ne pas dire une grosse peur de voir ce club disparaître. Mais je vois aussi que sur certaines réflexions, il y a de plus en plus de gens qui sont des fidèles du club, des fidèles supporters qui se demandent s'il ne vaut pas mieux tout arrêter, faire un dépôt de bilan et repartir plus bas et sur des bases saines. Parce que la question, elle est là aussi au niveau des supporters. C'est bien de savoir si on va battre Ajaccio et les autres et c'est très important parce que c'est l'actualité de la semaine. Mais à plus court terme ou plus moyen terme, se demander ce qui va advenir du club. Et est-ce que c'est pas mieux peut-être de repartir sur des bases saines? Parce que là, je vois pas qui va mettre au pot, quoi. Hein. C'est peut-être mieux pour un repreneur d'attendre qu'à la barre du tribunal, le club soit vendu à 1 euro et repartir. Je sais pas. Mais c'est une grosse inquiétude.
Est-ce que, au-delà de ces résultats, est-ce qu'il agace encore plus la communauté, comme vous l'appelez, que ce soit sur les réseaux sociaux ou peut-être tous ceux qui vont au stade ou qui regardent devant la télé, c'est ce silence assourdissant de la direction?
Ben si, c'est sûr. C'est une catastrophe en termes de com. Ben voilà, en fait, on n'assume pas. On va venir quoi? On attend d'être maintenu et puis on va parler en faisant encore un bilan positif des 2 saisons passées au club ou 2 saisons et demie, comme la dernière fois où on nous a enfumé. Bon, allez, c'est bien. La réserve, c'est pas bon. Les féminines, elles sont condamnées. Les jeunes, U19, U17, bon, ça à peu près, mais c'est pas super bon non plus. Il se passe quoi dans le club? On parle pas, là. Il y a personne. Hein. Personne ne parle, finalement. Il y a que l'entraîneur qui parle. Et c'est tout. Hein. Le président... Le numéro 2, numéro 3, directeur sportif, je sais pas où ils sont. Voilà, il y a pas de pilote dans l'avion, il y a pas de capitaine à la barre du navire, c'est juste qu'il y a pas de président en fait à la tête des Girondins de Bordeaux.
Donc Laurent, c'est tout simplement parce que pour l'instant, au-delà de commenter les résultats qui ne sont pas bons puisque de toute manière il n'y aura pas montée, c'est que il y a peut-être pas grand-chose à dire aujourd'hui de positif en disant voilà, j'ai trouvé un tel et que rien n'est fait et qu'il veut pas parler avant que.
Oui, peut-être, mais c'est quand même ne serait-ce que la présence, ça montre que vous êtes concerné. Alors ça veut pas dire parce que vous êtes pas là, vous n'êtes pas concerné, mais ça envoie un message aussi à tous les gens qui suivent le club, tous les gens du club aussi, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a pas que les joueurs, il y a des salariés qui peut-être préféreraient voir la fonction de président représentée, incarnée. Effectivement, alors le président il peut dire ce qu'il veut. Mais il est là. Là, ça donne l'impression que tout le monde s'en fout, en fait, ou qu'on n'assume pas. Oui, c'est ça, en fait, les supporters ressentent.
On va vous dire qu'il y a des confs téléphoniques quasiment tous les jours avec Thomas Jacquemier, avec Anne-Marie Lopez, peut-être avec Albert Hiera.
Ouais.
Ils vont vous le dire, ça.
Oui, mais les supporters et les amoureux du club, ils attendent autre chose. Ils attendent que quelqu'un incarne l'institution ce Girondins-Bordeaux, c'est pas n'importe quel club quand même. Hein. Voilà, c'est pas un club qu'on prend comme ça à la volée. Non. Alors, sans manquer de respect à tous les autres clubs, il y a quand même différentes catégories de clubs. Hein. Les Girondins-Bordeaux, c'est pas le Real Madrid non plus. Ok. Mais attention, quoi. C'est un monument du football. J'entendais hier Jacques Vendroux en parler avec Alain Giresse sur le plateau de Michel Drucker. C'est un énorme club, les Girondins-Bordeaux, disait Jacques Vendroux. Donc, évidemment. Donc, on attend autre chose dans un club qui a une aura dans une institution comme ça. Et il faut des gens à la hauteur. Et les gens qu'on a, ils ne sont pas à la hauteur. C'est tout. Voilà, à un moment donné, il faut dire ce qui est.
Ce qui est bien, c'est qu'on sait maintenant ce que vous faites le dimanche après-midi à regarder Michel Drucker, quoi.
Alors, je suis tombé par hasard dessus.
Oui, ça, c'est la défense habituelle.
Alors, je savais que cette émission avait été tournée, je le savais, puisque moi-même étant dans les préparations des festivités de l'Olympisme au Parc Lescure pour les 100 ans de la pratique du sport à Lescure, je suis membre de l'association Préservons Lescure, donc nous travaillons depuis plusieurs mois pour faire des compléments aussi au match qui aura lieu, au match des légendes qui aura lieu le 14 mai, le 16 mai, il y a des conférences aussi sur l'Olympisme avec d'anciens athlètes olympiques qui viendront au Parc Lescure en parler, conférence ouverte au public. Et je savais que cette émission avait été enregistrée, mais par contre, je savais pas du tout quand elle devait être diffusée. Et je suis tombé hier entre deux matchs de mon club, les U15 et les seniors. Je suis rentré à la maison et je suis tombé sur ça. Donc j'ai regardé. Effectivement, alors Michel Drucker s'est trompé parce qu'il a dit les 100 ans des Girondins de Bordeaux. Alain Giresse, il a dit non, le club est un peu plus vieux. Il a dit avec grand respect et grande humilité. Et ils ont embrayé bien sûr sur les Girondins de Bordeaux. Et Jacques Vendroux a dit c'est quand même un grand club. Et bon voilà, ils se sont pas étendus, mais on a bien compris qu'il y avait quand même l'histoire est là, mais l'actualité malheureusement elle est en train de la plomber. Elle écrit l'histoire, mais en train de la plomber aussi. Après, il n'y a eu aucun commentaire désobligeant, bien évidemment. Ce n'est pas le thème de l'émission. Mais voilà, et ça, si Michel Drucker a consacré 5 ou 6 ou 7 ou 8 minutes à ce sujet-là sur Lescure, au-delà des liens qu'il a avec Jacques Vendroux, puisqu'ils ont commencé le métier ensemble, et des liens qu'il a avec Alain Giresse, ils se connaissent très bien, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Bien sûr, il y a la promotion, mais c'est aussi du respect, et ça montre que Bordeaux, le Parc Lescure, les Girondins, l'histoire sont toujours attractifs. Et ça, il faut en être digne. Mais aujourd'hui, au club, on l'est pas. On n'est pas digne de ça.
Merci à Laurent Brun d'avoir été une nouvelle fois notre invité pour décrypter l'actualité des Girondins de Bordeaux et cette défaite à Laval. Prochain rendez-vous, ça sera vendredi au Matmut Atlantique. Bordeaux reçoit Ajaccio, certainement pour le match du maintien définitif. Et on en reparlera très vite sur Bordeaux le Mag.